Reconnue centre d'information depuis 2007, la Maison de l'Europe en Mayenne vous propose l'émission Instant Europe.
Vous l'entendez, c'est votre émission Instant Europe qui commence en partenariat avec la Maison de l'Europe en Mayenne. Aujourd'hui, nous abordons ensemble un thème précieux qui questionne, interroge. Il s'agit de la question du lobbying en Europe. Et pour en parler, je ne suis pas seule aujourd'hui en studio. Je suis avec Olivier Brunet. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, vous avez travaillé à la Commission européenne de 1989 à 2017, successivement sur 5 thématiques, la politique sociale, l'environnement, l'éducation, la politique régionale, la recherche et l'innovation. Et puis de 2017 à 2020, vous avez animé une équipe d'aide au montage de projets européens pour l'Université Bretagne-Loire à Nantes. Jusqu'ici, j'ai tout bon, Olivier ?
Oui, c'est parfait. Donc, ça montre aussi la diversité des politiques dans lesquelles on peut parler de lobbying.
À vos côtés aujourd'hui, Patrick Envrin, vous avez été chargé de mission à la Chambre d'agriculture des Vosges pendant 4 ans, chef du service Europe et Plan au Conseil régional de Bretagne pendant 3 ans et directeur en charge de mission diversifiée de lobbying européen. Et pendant 26 ans, vous avez travaillé à la Conférence des régions périphériques maritimes, donc la CRPM. Bonjour à vous Patrick et merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission.
Bonjour à vous et à tous les auditeurs. Et parfait pour la présentation. Je veux dire qu'on s'est croisé avec Olivier Brunet à Bruxelles à plusieurs reprises. Je pense que c'est quand vous travaillez à la DG Régio sur les politiques régionales.
Donc aujourd'hui, je le disais pour l'auditeur de l'autre radio, on parle lobbying en Europe pour peut-être se questionner sur est-ce que le lobbying est plutôt du côté de l'influence ou même de la manipulation. Finalement, on entend énormément de choses autour de ces questions-là. Pour redéfinir et bien parler de la même chose ensemble, je vous propose peut-être qu'on donne une définition du lobbying. Le lobbying, qu'est-ce que c'est en Europe ?
Alors moi, je veux bien donner une définition, il y en a plusieurs. Moi, j'ai tendance à dire que le lobbying, c'est un groupe de personnes qui est créé pour promouvoir et défendre des intérêts qui sont privés ou non, en exerçant une influence sur des personnes ou institutions publiques détentrices de pouvoir. C'est une définition un petit peu longue, mais il y a la notion de groupe. Donc si je suis tout seul, je peux être un lobbyiste, mais je suis membre d'un groupe, la promotion et la défense des intérêts, à coup sûr, donc c'est plutôt de l'influence, privée ou pas privée, en tout cas dans la définition européenne, on ne va pas faire nécessairement de distinction. Et l'élément clé, c'est évidemment une influence sur qui ? Eh bien, c'est a priori des gens qui, comme moi, ont travaillé à la Commission européenne, donc plutôt des gens qui sont dans des institutions, dans des structures publiques.
Patrick, est-ce que vous avez la même définition ? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, c'est parfait. Je rajouterai quelques commentaires du point de vue de mon organisation, c'est-à-dire du point de vue du groupe qui représente les régions maritimes à Bruxelles auprès des politiques européennes. Je dirais que pour la CRPM, le lobbying, c'est prendre en compte l'évolution de l'Europe et la part prise de plus en plus importante de l'Union européenne dans les textes juridiques et les financements apportés par l'Union. Et donc, comme l'Europe monte en puissance, il était important que les régions montent en puissance également. Et c'est l'idée de cette organisation qui s'appelle la CRPM. Mais je rejoins tout à fait la définition d'Olivier sur tout cela.
Vos deux expériences vont pouvoir justement compléter peut-être effectivement le regard et un peu l'expérience, le point de vue sur cette thématique. Je me pose la question, en quoi le lobbying est peut-être particulièrement important à l'échelle européenne ? Est-ce qu'il est différent du lobbying qu'on peut rencontrer plutôt du point de vue national ? Est-ce qu'il y a une différence ?
Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a des ressemblances. Si vous parlez de lobbyistes au niveau national ou au niveau européen, vous allez trouver des ressemblances. La particularité européenne, c'est le système institutionnel qui est particulier, donc qui vous fait rentrer dans des choses qui ne sont pas habituelles dans un niveau français. Donc si on vous parle de commission, de conseil et de parlement européen, c'est des choses qui n'existent pas au niveau français. Par contre, au niveau français, on a des lobbies de toutes sortes et on a aussi une réglementation du lobbying qui a été instituée depuis une loi dite Sapin. Donc il y a tout de même des éléments de comparaison possibles. Maintenant, je dirais qu'en France, le lobbying a assez mauvaise réputation, alors que si on est au niveau européen, on va différencier les choses parce que les cultures du lobbying sont assez différentes d'un État membre à l'autre en Europe. Et en final, à Bruxelles, on est plutôt plus pragmatique qu'au niveau français et on va utiliser cette notion d'influence de manière assez variée.
Oui, le lobbying évolue. De toute façon, c'est une notion qui évolue beaucoup, notamment le lobbying européen, dans la mesure où il y a une montée en puissance d'une institution en particulier, qui est le Parlement européen. Et donc, il y a le lobbying auprès de Bruxelles. C'est une possibilité pour un certain nombre d'acteurs, les régions, les ONG, etc., d'intervenir au niveau européen sur des textes européens sans passer par Paris, ou plutôt en complément du lobbying qui peut être fait au niveau national. Donc il y a vraiment une notion de complémentarité. Il faut faire à la fois du lobbying à Paris, il faut compléter, il faut le faire également au niveau de Bruxelles, c'est ça.
Et alors, ce que je trouve intéressant, vous avez pu le dire un petit peu, il y a donc le lobbying, on parlait d'ONG, d'associations. Quel type d'acteurs peuvent être des lobbies, participent à ce lobbying à Bruxelles, justement ?
Vous avez à la fois les intérêts privés, donc les organisations professionnelles privées, les syndicats, les ONG, les associations, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a une série de domaines où les lobbies sont assez peu présents, comme la culture, comme l'économie sociale. Mais en fait, les lobbies à Bruxelles sont surtout présents sur les dossiers et sur les politiques qui bénéficient du maximum de financement. Donc, vous savez que les financements européens sont répartis, mais là, je parle sous le contrôle d'Olivier Brunet, avec des grosses masses, une grosse masse sur la politique agricole et une grosse masse sur la politique régionale. Et très classiquement et très normalement, les lobbies qui interviennent à Bruxelles sont plutôt forts sur ces thèmes-là, sur ces thématiques-là.
Moi, je dirais à peu près la même chose avec mes propres mots. Traditionnellement, les lobbies se sont constitués vraiment dans les politiques importantes et les politiques communes. Il y a une diversification constante. Et à Bruxelles, on a tendance à ne pas faire la différence. Donc, quand on va vous parler de registre de transparence, où on va inscrire les gens qui ont une fonction de lobby, on ne va pas chercher la différence. Vous êtes une ONG, vous êtes un groupe d'influence. Et parfois, vous pouvez même hésiter en disant « je suis un réseau de villes, je suis un partenaire social, je ne suis pas un lobbyiste ». Mais en même temps, si vous voulez rentrer dans la logique de l'influence au niveau bruxellois, vous allez devoir accepter d'entrer dans un registre de transparence et dire simplement qui vous êtes.
Alors, on parlait des domaines justement les plus présents, les domaines où le lobbying est le plus présent. C'est donc probablement, comme vous avez pu le dire, Patrick, les domaines où il y a le plus d'argent peut-être en jeu. On a parlé de l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui reviennent ?
Il y a également, évidemment, les politiques environnementales de Bruxelles, pour lesquelles il y a toute une série d'ONG qui ont pignon sur rue à Bruxelles. Mais alors, c'est un domaine que je connais assez mal, puisque moi, c'est plutôt le domaine des régions et de l'agriculture pour lesquelles j'ai été amené à travailler. Mais c'est assez impressionnant à Bruxelles, je ne sais pas si Olivier a vu ça, les salles de travail des ONG à proximité du Berlaymont, c'est des ruches avec des tas de personnes très, très, très impliquées sur leur dossier, qui ne prennent pas le temps de prendre un petit café comme on peut le faire nous peut-être dans les bureaux régionaux. Et c'est quelque chose de très impressionnant, les lobbies environnementaux à Bruxelles. Et pour le reste, écoutez, chaque lobby a sa façon de fonctionner. On y reviendra. Donc, il y a les cibles prioritaires qui sont évidemment les services de la Commission, les services et les élus du Parlement européen. Et pour les régions, une institution qui est assez récente, qui s'appelle le Comité des régions, qui est une vraie institution européenne qui représente les régions, mais auprès desquelles les régions et leurs organisations peuvent aussi faire du lobbying, j'allais dire, interne.
Moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a quelque temps un vrai pur lobbyiste qui s'appelle Monsieur Guéguin, qui en a fait d'ailleurs des ouvrages, il a fait de la formation au lobbying. Lui, il venait du monde agricole et il me livrait, je dirais, de manière informelle, je dirais, ses impressions sur une période de 30 ans, en disant que traditionnellement, bien sûr, agriculture et industrie restent des vecteurs de lobby puissants. Mais il me donnait un coup de chapeau, je dirais, au monde des ONG, en disant que les ONG sont montées en puissance. Et les ONG, alors, l'exemple typique, c'est celui qui vient d'être donné, qui est la thématique de l'environnement. Mais qu'en final, les groupes les plus anciens ne sont pas forcément les plus... Enfin, ils ont leur efficacité par rapport à des politiques communes, mais l'agilité de structures plus jeunes et plus, plus agiles, peuvent être tout à fait pertinents dans le monde très complexe de Bruxelles.
Et alors, en quoi est-ce qu'on peut considérer que le lobbying est essentiel justement pour la prise de décision dans une union comme l'Union européenne ? En quoi c'est essentiel cette présence des lobbies ?
C'est essentiel parce que les informations, les décisions prises et les propositions faites à Bruxelles par les institutions européennes sont travaillées surtout avec les services des États et pas forcément très directement avec les organisations de la base, organisations de citoyens, organisations de société civile. Donc il est important de compléter le fonctionnement institutionnel normal de l'Europe avec les expertises qui peuvent venir d'autres réseaux, d'autres types d'acteurs. Et c'est une notion importante pour nous. Quand je dis nous, c'est mon ancienne organisation, la CRPM, c'est d'apporter une expertise complémentaire aux institutions européennes. Ce qui m'a frappé dans mon travail avec, pas avec la Commission, mais avec le Parlement européen, c'est que le Parlement n'a pas véritablement d'expertise. Donc le Parlement traite maintenant d'une série de sujets très impressionnants avec la codécision. Mais paradoxalement, ils n'ont pas de service technique qui leur permet d'argumenter leur position. Et donc, ils se reposent sur les services de la Commission européenne, mais ce n'est pas forcément suffisant. Donc, ils ont besoin d'avoir un éclairage de la part des gens qui travaillent sur ces dossiers, industriels, agricoles ou autres. Et c'est l'objectif du lobbying. En tout cas, c'est notre approche à la CRPM, c'est d'être à la fois... d'être une agence d'idées et une agence d'expertise pour aider les institutions européennes et notamment le Parlement, j'y reviens, à avoir des positions qui reflètent donc les priorités des citoyens et des citoyens et de la société civile.
Moi, je vais exprimer à peu près le même point de vue de l'autre côté du miroir en disant que ayant travaillé dans une institution qui était la Commission européenne, on est, en tant que fonctionnaire, on peut acquérir une certaine expertise, mais on reste tout de même un généraliste. Et donc, si vous voulez bien faire votre métier, sur qui allez-vous vous appuyer ? Sur des gens qui en savent plus que vous. Les gens qui en savent plus que vous, ils sont parfois autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller les chercher dans les différents États membres. Ils sont représentés à Bruxelles. Donc, de ma période dans la politique régionale, il est évident que la CRPM était un partenaire incontournable. Je dis partenaire parce que dans le cas de la CRPM, on est dans un lobby d'organisations représentant des institutions publiques. Donc vous êtes assez éloigné de ce qu'on peut connaître, je dirais, quand on va parler d'un dossier du glyphosate, où là on est à couteau tiré vraiment sur le monde industriel et le monde environnemental. Et la CRPM était respectée parce que la CRPM est toujours respectée, elle représente des structures régionales connaissant et s'intéressant à la dimension maritime. Donc si vous voulez travailler sur ces sujets-là, elle est incontournable. Si vous êtes au Parlement européen, elle est aussi incontournable parce qu'un député est toujours un généraliste ou une généraliste.
Et alors pour bien comprendre le fonctionnement des lobbies, comment est-ce qu'ils interagissent pour influencer justement les décisions par exemple de la Commission européenne ? À quel moment est-ce que ça se passe sous forme de rencontre ? Comment est-ce que se passent les échanges ?
Alors, moi, je vais prendre l'angle Commission européenne. Je dirais tout dépend de ce que vous faites à la Commission européenne et vous intéressez les lobbies ou vous n'intéressez pas tant que ça les lobbies selon votre travail. J'étais à deux reprises dans des activités législatives. Donc là, il n'y a pas de doute que si vous êtes dans la phase de préparation d'une législation, vous intéressez les lobbies qui vont s'intéresser à vous et vont essayer de comprendre et d'influencer votre fonction de proposition. À partir du moment où la proposition de la Commission est faite, elle se déplace au Parlement et au Conseil. Donc si le lobbyiste fait bien son travail, il devrait être plus actif au Conseil et au Parlement. Mais il devrait revenir vers vous à un moment donné parce qu'il sait que le contrôle de la transposition des directives sera assuré par la Commission européenne. Donc en final, si le lobbyiste fait bien son travail, il a un réseau de connaissances, je dirais, assez continu. Il peut se plaindre d'ailleurs que les fonctionnaires changent parfois de poste. Mais ça, c'est la loi normale de l'écosystème bruxellois. Et à l'inverse, le fonctionnaire peut souhaiter travailler dans la durée avec des lobbyistes de confiance parce qu'il sait que c'est des gens expérimentés et qui sont là assez longtemps. Ça, c'est le volet législatif, mais vous en avez beaucoup d'autres. Moi, J'ai travaillé dans le domaine de l'éducation. J'étais chargé de la coopération avec les associations dans le domaine de l'éducation. Là, le lobbying était beaucoup plus soft, si je puis dire, mais il était très utile. C'était intéresser la grande constellation des associations dans le domaine de l'éducation à ce qui se faisait autour d'Erasmus, de façon à ce qu'on ne découvre pas Erasmus au dernier moment, à ce qu'on les implique dans les exercices d'évaluation. Et le nombre d'associations dans le domaine de l'éducation est considérable.
Pour aller dans le même sens, donc, le lobbying, de notre point de vue à la CRPM, intervenait dans différents stades de la préparation ou de la mise en œuvre des politiques communautaires, en commençant, mais très en amont, donc avant que la Commission ne sorte une proposition, nous étions là à faire des propositions précises, techniques, argumentées, vraiment argumentées sur des statistiques, sur la valorisation des statistiques Eurostat de l'Union européenne, basées aussi sur de la cartographie. Je pense que l'une des valeurs ajoutées que notre organisation avait, c'était que toutes nos propositions étaient mises sur carte avec un fond de carte des régions, enfin la carte des régions en Europe, et l'impact des différentes options possibles des politiques communautaires ou de tel outil communautaire qu'on va mettre en place était visible région par région avec des couleurs. Enfin, c'était très bien fait. Nous avions d'excellents cartographes et géographes qui sont d'ailleurs pour certains devenus qui ont des postes importants dans l'administration française au niveau du SGAE, du service qui coordonne les affaires européennes, les services du Premier ministre. Donc c'est ça, il y a en amont et ensuite suivre l'évolution de la réglementation au sein de la Commission, puis la négociation au Parlement européen. Et se servir du comité des régions, qui, comme je vous l'ai dit, est l'institution des régions maintenant, comme relais pour faire avancer ces propositions. Donc je crois que c'est très important de dire qu'on apporte les lobbies intéressants, les lobbies qui marchent à Bruxelles, sont ceux qui apportent une valeur ajoutée en termes d'expertise. Juste un petit exemple un peu personnel, je crois que c'était en 1997, ça remonte à loin. Il y avait un secrétaire d'État français qui s'occupait du commerce, qui s'appelait Jean-Pierre Raffarin, qui avait avant été président de la région Poitou-Charentes et qui présidait la commission Arc-Atlantique, c'est-à-dire une des commissions géographiques de mon organisation de l'époque. Et il a réussi à proposer, via le gouvernement français, une évolution d'un des programmes européens importants en matière régionale, qui est le programme Interreg sur la coopération transfrontalière, pour ajouter un volet C, un volet transnational qui n'existait pas, que nous avons argumenté, qui est passé au Conseil, enfin qui a passé, qui est maintenant, qui existe toujours. Maintenant, ça doit s'appeler Interreg 5, je ne sais pas combien. Mais au-delà de ça, donc on a réussi ça. Mais ensuite, il fallait sur chacun de ces programmes, donc par exemple sur l'espace atlantique, qui était l'un des espaces de mise en œuvre de cet Interreg 2C, donc depuis l'Andalousie jusqu'à l'Écosse, tout un espace européen, il fallait pondre un projet de programme opérationnel. Et c'est nous qui l'avons écrit. Et ensuite, on l'a vendu à la Commission, aux différentes institutions européennes, qui l'ont évidemment modifié, etc. Mais on était à la base d'une mise en œuvre de politique européenne. Et bon, voilà, c'est juste une petite illustration de jusqu'où peut aller un rôle de lobby.
Ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous avez pu dire, Olivier, tout à l'heure, c'est que finalement, par exemple, la CRPM est un lobby particulièrement considéré et respecté. Tous les lobbies, c'est pas forcément en fonction d'ailleurs de leur, leur nombre d'années d'existence, mais ils ont un poids différent.
Oui, alors je dirais, ayant vu différentes politiques, je dirais des choses assez différentes d'une politique à l'autre. Dans la politique régionale, on a l'avantage d'avoir des structures de lobbying qui sont assez stables. Et donc, si vous voulez des gens compétents sur ce qui vient d'être décrit sur la politique régionale et la dimension maritime, la CRPM est incontournable. Si vous voulez des questions de ville, le Eurocities, qui est le lobby des grandes villes, est absolument incontournable. Et donc, j'en aurai 5 ou 6 ou 7 à mettre sur la table qui sont vraiment incontournables. Si vous êtes dans d'autres domaines, c'est effectivement plus compliqué. C'est un peu une constellation relativement instable. Bon, le domaine de l'éducation est assez intéressant et je, je vais le renforcer aussi en donnant des explications supplémentaires, par exemple sur un des grands moteurs de l'Europe ou des choses qui nous font encore rêver, qui est Erasmus. Bon, qui a créé Erasmus ? C'est une question généralement à laquelle les gens n'arrivent pas à répondre. Et en se disant quelle a été la constellation des planètes qui a été favorable en 1987. Typiquement, c'est une constellation qui passe par les pouvoirs politiques, puisque ça a été décidé et soutenu, et à l'époque, Mitterrand et Kohl ont eu un rôle important. C'est passé par les institutions européennes. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler pour un directeur qui était certainement l'un des inventeurs d'Erasmus, mais qui avait le génie d'être à l'écoute à la fois des décideurs pour faire passer les bonnes décisions, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, ça nous ramène à notre sujet, des associations extrêmement actives d'étudiants, en l'occurrence, en coopération avec les universités, de façon à pousser de la mobilité qui était relativement une évidence pour les jeunes de l'époque, en disant qu'il n'y a pas de raison qu'on parle uniquement de la mobilité pour les travailleurs, et donc on veut aussi quelque chose d'équivalent. Et ces associations européennes, généralement européennes, elles existent aussi au niveau mondial, mais européennes des étudiants, est un levier puissant auprès d'un ministre de l'Éducation. D'avoir l'écoute d'une association d'étudiants, c'est très important. Vous savez aussi que les étudiants peuvent être gentils ou également manifestés. Donc les ministres y sont attentifs. Et donc il ne faut pas oublier dans Erasmus la réussite de... Alors on dirait lobby aujourd'hui, mais on dirait groupe d'influence à coup sûr et association d'étudiants sans aucun doute.
On imagine qu'il y a un rapport de force aussi parfois un peu plus complexe sur des sujets par exemple plus sensibles, dans des domaines plus sensibles, par exemple les questions d'environnement et d'agriculture. Le rapport de force et la discussion doit être un peu plus houleuse peut-être, ou en tout cas un rapport de force entre peut-être même le privé et le public un peu différent.
Oui, alors c'est clairement pas trop mon sujet dans la mesure où j'ai pas l'organisation pour laquelle je travaille n'intervenait très peu sur les questions d'environnement. C'était plutôt les questions d'accessibilité, de PIB, de niveau de développement des régions périphériques, etc. Et donc, je ne saurais pas trop répondre à ces questions.
Il y avait ce rapport avec justement un rapport de force, peut-être des fois avec les privés ou pas forcément là. Pour
moi,
le coup,
je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples là-dessus. Un exemple de brutalité, c'est le glyphosate. Le dossier sur le glyphosate est un affrontement brutal entre des ONG environnementales et le monde de l'agriculture, et pas uniquement. Donc ça peut être analysé en détail. Moi, je le fais comme cas pratique, je dirais, avec mes étudiants. Il n'y a pas de doute que là, on est dans un monde de lobbying brutal. Mais j'ai vu dans le domaine de l'environnement, par expérience, un domaine qui est celui de la qualité de l'air, qui peut être brutal parce que les intérêts sont très divergents, mais dans lequel la Commission européenne s'était efforcée de constituer des groupes de travail permettant le dialogue très en amont, avant même que ça arrive sous forme de proposition de la Commission européenne. Là, c'est un peu un monde invisible qui fait que on voit le monde de la discussion entre Commission, Conseil et Parlement. Mais avant ça, la Commission est au travail pendant souvent 2 ans. Et sur des propositions sur la qualité de l'air, je l'avais vu avec un chef d'unité à l'époque, un Espagnol, qui avait très bien compris que s'il voulait avoir un dialogue moins dur entre les groupes d'intérêt très opposés, et là-dedans, il y avait les employeurs, le secteur pétrolier, il y avait les ONG environnementales, il avait mis également Eurocities parce qu'il savait que c'était les villes qui en finale auraient le contrôle de l'application de la législation sur l'air. Ça faisait des groupes de travail rugueux, hein. Le dialogue n'était pas simple, mais en finale ça permettait à chacun de savoir un peu mieux quelles allaient être les positions dans la négociation ultérieure. Et donc je pense que dans ce monde relativement discret, et parfois on nous le reproche sur l'opacité relative du dialogue au niveau européen, il ne faut pas sous-estimer l'ampleur de ces groupes de travail où les lobbies apprennent les uns des autres. Et en finale, là, l'arbitrage avait été fait par une commissaire danoise qui était aussi très attentive à ne pas être... qui était très environnementale, mais qui était attentive à connaître exactement de la part de ses services jusqu'où l'industrie était capable d'aller. Et sans oublier le monde économique, parce que les gens disaient que, oui, sur la santé, on a bien compris que ce n'est pas bon d'avoir du benzène et du monoxyde de carbone, mais dites-moi combien ça va me coûter. Et là, le coût, l'évaluation du coût, c'est redoutable.
Oui, donc le dialogue, en fait, est vraiment différent. Patrick, vous n'y avez pas ces rapports de force face à une opposition, puisqu'on parle là plutôt d'expertise pour la CRPM, par exemple.
Non, il n'y a pas, on n'a pas eu à faire face à ce genre de situation. En fait, la CRPM était un peu le leader au niveau européen des prises de position, enfin des positions sur les questions territoriales. Donc, on travaille de façon tout à fait complémentaire avec les réseaux de villes, le réseau d'autorités locales. Voilà, donc peut-être c'est l'occasion de dire deux mots de plus sur ce que c'est que la CRPM, parce que j'en ai parlé beaucoup, mais paraître assez distant pour effectivement les citoyens et les auditeurs mayennais. Donc juste pour faire du lobby au niveau régional, il est important d'y aller grouper. Donc l'idée de la CRPM, c'est de regrouper l'ensemble des régions qui ont ce problème de périphéricité et ce problème de développement. Ça a été créé en 1973 à Saint-Malo par des Bretons. À l'époque, il y avait 26 représentants de régions qui sont regroupés à Saint-Malo. Ensuite, cette organisation s'est développée. Nous avons, je crois qu'il y a maintenant autour de 150 régions donc 150 régions, ça pèse au niveau européen. Et ça permet surtout, parce qu'elles sont financées par cette organisation est financée par les cotisations des régions, sur la base en gros de 10 centimes par habitant, voilà, ça permet de financer un gros secrétariat. Et gros secrétariat veut dire beaucoup d'idées, pouvoir mobiliser pas mal d'expertise. Donc il y a un bureau à Rennes avec une dizaine de personnes, un bureau à Bruxelles, une dizaine de personnes, et un bureau important aussi à Barcelone pour la Méditerranée. Donc voilà, donc on a cette base qui permet donc, j'en ai parlé, de financer des études, de financer des chargés de mission qui travaillent sur chaque dossier et peuvent argumenter ou contre-argumenter sur les propositions de la Commission ou d'autres autorités européennes. Je voudrais juste dire un ou deux mots pour rebondir sur ce que disait Olivier sur la continuité. Cette organisation donc, existe depuis 50 ans. Et en 50 ans, il n'y a eu que 3 secrétaires généraux de Français. Actuellement, la secrétaire générale est une certaine secrétaire générale grecque. Et un mot quand même sur les personnes aussi qui ont permis à cette organisation de grandir, notamment dans la période récente. Il y a une personne clé chez nous, et je pense que certains vont sourire peut-être, c'est Jean-Yves Le Drian, qui a présidé la CRPM pour un certain temps, qui a eu ensuite un parcours que l'on connaît. Et c'est important de voir qu'à partir d'un lobbying régional, d'une organisation régionale, ces gens... Enfin, cette organisation, la présidente de cette organisation, a été un vrai tremplin pour des carrières politiques et nationales assez prestigieuses. Jean-Pierre Raffarin, qui a présidé l'Arc Atlantique, Jean-Yves Le Drian, et la Toscane, la région Toscane, qui a un rôle très important au sein de la CRPM. Deux des présidents de la région de la CRPM ont été toscans. Ils sont tous les deux devenus ministres dans leur État. Donc cette dimension est importante. Et autre élément, et j'en finis avec cet organigramme, si je puis dire, le président actuel du comité des régions, donc l'institution dont j'ai déjà parlé, s'appelle Vasco Cordero, c'est le président de la région des Açores, et c'était le président de la CRPM. Donc il y a eu, grâce à sa présidence de la CRPM, il a pu obtenir la présidence de cette organisation qui promeut tous les aspects qui aide les pouvoirs locaux et régionaux à être représentés à Bruxelles.
J'allais vous demander un projet marquant peut-être sur lequel la CRPM a travaillé, quelque chose qui vous vient.
Oui, des projets marquants.
Vous en avez déjà un peu évoqué.
Alors, des projets marquants. Alors, il y a effectivement un certain nombre de projets. Vu la durabilité, l'antériorité de la création de la CRPM, il y en a eu beaucoup. Oui. Je voulais peut-être dire en termes de lobbying une date importante, mais qui est donc le résultat d'une démarche politique de la CRPM. C'était en 2009, un certain Michel Barnier, qui était commissaire européen aux politiques régionales, sortait d'une réunion du collège des commissaires, ça devait être un mercredi, donc il a appelé mon secrétaire général de l'époque en lui disant « Nous n'aurions pas sauvé la politique régionale sans le soutien de la CRPM ». Donc c'est un succès, même si ce n'est pas un projet concret. En termes de projet concret, ce que nous avons créé sur les questions maritimes, c'était en 2009, et ça reste un projet de... Le terme concret n'est peut-être pas adapté à ça. Nous avons créé un intergroupe au Parlement européen, donc pour relayer de façon plus complète nos positions au niveau du Parlement européen. C'est un intergroupe officiel. Il y a beaucoup d'intergroupes au Parlement européen, mais il y en a très peu d'officiels. Quand je dis officiels, ça leur permet d'avoir un interprétariat et des salles gratuites. Il y a 27 intergroupes, il y avait à l'époque, 27 intergroupes approuvés par le Parlement européen. Et nous avons créé un intergroupe sur la mer et les zones côtières. Très concrètement, lorsque le Parlement a été élu en 2009, nous avons appelé Corinne Lepage, qui venait d'être élue. Et nous lui avons proposé de créer cet intergroupe. Et elle a suivi l'idée, elle était très impliquée là-dedans, ainsi que son attaché parlementaire. Et nous avons créé cet intergroupe. Donc depuis 2009, il y a à Bruxelles un intergroupe qui relaie les priorités des régions maritimes au sein du Parlement. Alors les autres, peut-être projets plus concrets, nous avons permis aux autoroutes de la mer, qui est une notion développé par la Direction générale des transports à Bruxelles, de relations, on le comprend bien, entre ports au sein d'une façade maritime, sans passer par les liaisons terrestres. Une nouvelle notion, les autoroutes de la mer, qui sont assez récentes, ont été intégrées grâce à l'action de la CRPM au réseau transeuropéen de transport. Donc un réseau qui était plutôt terrestre, grâce à la CRPM, a intégré beaucoup plus une dimension maritime. Tout ça se fait avec des textes qui sont votés lors d'assemblées générales. On a voté, par exemple, le 20 avril 2010, une déclaration de Riron, à Riron dans les Asturies, pour promouvoir le développement du transport maritime entre régions périphériques et pas nécessairement forcément entre les gros ports du Northern Range ou ailleurs. Donc nos organisations votent des déclarations qui sont évidemment mailées, qui sont envoyées à des centaines grâce aux emails, grâce aux nouveaux moyens de technologie. Donc il est très facile de les envoyer à 500 personnes responsables européens et autres. Et voilà, on fonctionnait beaucoup comme ça. Et dernier point, dernier projet concret, ça c'était en 2015, c'était la création d'un projet. Alors, on a beaucoup parlé d'Erasmus, on a un peu parlé d'Erasmus, donc en 2015, nous avons lancé un Erasmus maritime à l'origine de la CRPM, dont l'origine est la CRPM. C'était suite à un appel d'offres européen que nous avons obtenu, et nous avons obtenu un projet qui s'appelle Vasco de Gama, qui vise à développer les partenariats et les échanges entre écoles maritimes des régions avec de la mobilité, etc. Et ça, c'est un projet important pour lequel nous avons obtenu un soutien de la Commission européenne. Donc ça, ce sont les projets concrets. Je pourrais en signaler d'autres, évidemment. Mais
ça nous permet de visualiser justement concrètement, effectivement, de quoi on parle quand on parle.
Donc l'intégration, juste un dernier point, l'intégration des ports périphériques au sein du réseau transeuropéen de transport, qui est financé à la fois par la politique régionale et par la politique de transport, ça c'était une réussite clé de la CRPM.
Eh bien, je vous propose de faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après. Donc, on parle aujourd'hui dans cette émission Instant Europe du lobbying en Europe. Et donc, dans la suite de cette émission, on va parler un peu justement de transparence et de régulation, puisqu'on a pu voir un peu l'aspect essentiel du lobbying. Peut-être voir aussi pourquoi cette image est négative. On a pu en dire quelques mots, particulièrement en France. Et donc, on se retrouve juste après. On écoute tout de suite Wax Taylor, Que Sera. A record of the delightful piece they're going to play this evening.
Your attention, please. And now the moment. moment we've been waiting for is here. I have something to tell you.
De retour dans Instant Europe sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Aujourd'hui, dans cette émission, on parle de lobbying en Europe et pour bien en parler, je suis accompagnée de Olivier Brunet. Je le rappelle, vous avez travaillé à la Commission européenne de 1989 à 2017 sur les thématiques de la politique sociale, l'environnement, l'éducation, la politique régionale, la recherche et l'innovation. On va y revenir d'ailleurs. Et puis, de 2017 à 2020, vous avez animé donc une équipe d'aide au montage de projets européens pour l'Université Bretagne-Loire à Nantes. À vos côtés se trouve Patrick Envoin, qui est peut-être d'un autre point de vue. Vous avez travaillé, Patrick, pendant 26 ans à la CRPM, donc à la Conférence des régions périphériques maritimes. Et ensemble, aujourd'hui, on parle du lobbying en Europe. On a pu présenter un peu ce que c'est le lobbying, ce qu'est le lobbying en Europe. On a pu voir aussi à travers vos différentes expériences et des exemples concrets concrètement, en fait, de quoi on parle et quel type de projet est-ce que l'on peut présenter à Bruxelles. J'avais envie de revenir peut-être sur un point pour continuer cette émission. On a pu le dire en quelques mots tout au début, le lobbying n'a pas forcément toujours une bonne image, peut-être en France particulièrement une image négative. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette image persiste ?
Pourquoi elle persiste ? Je pense que c'est, je dirais, on est ancré dans des mondes nationaux où de toute façon on peut avoir des tas de bons ou de mauvais exemples de lobby pertinents. Là, si on se met en tout cas au niveau européen, on est plus pragmatique que ça. Il y en a des cultures nationales qui s'imbriquent les unes avec les autres. Et donc en final, on est arrivé à la conclusion, et c'était peut-être le sens de votre question, qu'on a la nécessité d'encadrer les choses et de jouer la transparence. Donc la transparence, ça s'appelle un registre de transparence qui existe depuis 2011. Ce registre de transparence demande aux gens de s'enregistrer et de dire qui ils sont et ce qu'ils font. Et puis, ça ne vous oblige pas absolument à vous enregistrer, parce que si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Mais à ce moment-là, vous allez être pénalisé parce que les institutions européennes ne vont avoir de contact qu'avec les gens qui sont enregistrés. Donc, si vous voulez un badge pour entrer au Parlement européen, si vous voulez accéder facilement à un fonctionnaire de la Commission européenne, vous devez être enregistré. Donc, je dirais que la réponse, c'est la transparence. C'est ce qui existe quand même dans certains pays. À ma connaissance, il y a 6 États membres qui ont réglementé le lobbying. La France en fait partie avec la loi Sapin. Mais ça ne veut pas dire que les cultures politiques vont changer. Et donc, si vous êtes dans un monde, pour simplifier, d'Europe du Nord, on est davantage habitué à ce dialogue avec les groupes d'influence. Il faut se souvenir au passage, d'ailleurs, que le lobbying a son origine aux États-Unis. Hein. Donc, le mot lobby lui-même vient de... du général Grant qui avait dû, suite à un incendie à la Maison Blanche, s'installer dans un hôtel et où les lobbyistes, les groupes d'intérêt étaient là dans ce qu'on appellerait la salle des pas perdus. Donc peut-être que du côté français, on mélange un petit peu les choses en disant que le lobbying c'est américain et puis britannique et que tout ça est anglo-saxon. Oui, il vient de là, mais si vous allez en Suède, vous allez avoir une culture qui est assez différente où les gens vont vous dire que naturellement, je dialogue avec des groupes d'intérêt, je veux surtout savoir qui ils sont. Donc là, on est vraiment typiquement dans des cultures de la transparence.
Puis à savoir que le lobbying aux États-Unis ne fonctionne probablement pas comme ce dont on parle aujourd'hui en Europe.
Non, mais bon, sur la planète, en tout cas, il n'y a pas de doute que c'est au niveau américain que le lobbying est le plus organisé. Mais là aussi, le lobbyiste ne fait pas n'importe quoi. Il est connu et reconnu. Sur la place de Bruxelles, on évalue, c'est Transparency International qui évalue à 37 000 personnes qui sont dans des activités de lobby à Bruxelles. Donc sur Bruxelles, on est vraiment dans la deuxième place après Washington. Mais vous avez raison, le sujet américain mériterait une analyse à part entière parce que là aussi, il y a quelques préjugés.
Oui, peut-être juste maintenant, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Là. C'est très français, effectivement, cette image négative du lobbying. Cette image négative a fait que la CRPM, j'en reviens là, ne se fait pas appeler lobby, mais agence d'idées. Mais c'est un lobby quand même, donc c'est juste une question de sémantique. Non, je pense que l'image négative qui peut venir sur le lobbying vient que... Et c'est en partie vrai sans doute que ce sont les budgets les plus importants, les firmes ou les organisations qui ont le budget le plus important, qui peuvent se permettre d'avoir des services de lobbying très importants, plus forts que les autres. Donc en gros, c'est les gros qui gagnent face aux petits. Et donc c'est peut-être pour ça que c'est important d'avoir cette réglementation du lobbying au niveau européen. Au niveau de notre organisation, je dois dire qu'on n'a jamais eu de problème à faire quoi que ce soit en direction du Parlement, Parlement ou de la Commission. Je pense qu'il ne faut pas trop encadrer non plus le lobbying, dans la mesure où si ça ne se fait pas officiellement, ça continuera de toute façon à se faire en off, dans les coulisses, si je puis dire. Ce n'est pas forcément plus souhaitable. Et là, à nouveau, les lobbies les plus puissants et les plus riches auront la priorité, le plus d'efficacité.
On peut ajouter un petit mot sur l'influence hein, dans le monde d'aujourd'hui qui s'appelle fake news, réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est le plus grand danger actuellement? Est-ce que M. Poutine, pour parler clair, envoie des lobbyistes russes dans les institutions européennes? Non, les choses sont en train de changer, donc il faut essayer aussi un petit peu de faire évoluer notre radar. Donc le lobbyiste... reconnu, connu, dans un registre de transparence, c'est tout de même le niveau de démocratie supérieur à ce qu'on peut connaître, qui est le vrai danger pour moi de l'influence anonyme, manipulatrice, passant par des réseaux sociaux et des fake news.
Ce registre de transparence a donc permis, enfin, est efficace, le fait d'identifier chaque personne et qu'il y ait justement...
Alors l'efficacité, il faut toujours être prudent parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un pépin. Je dirais que c'est mieux, moi je parle plutôt en tant qu'institutionnel là-dessus. Je trouve qu'un registre de transparence créé en 2011, c'est plutôt mieux que la loi de la jungle totale précédente et qu'en tout cas les lobbies bien connus et bien reconnus de type CRPM n'avaient aucun souci avec ce registre de transparence. Ils entrent dedans et de toute façon tout le monde les connaît. Mais le registre de transparence permet de connaître des gens moins connus et en tout cas d'avoir aussi une série d'informations sur qui ils sont, qui ils représentent, dans quels états ils sont représentés. On n'est jamais à l'abri d'un accident. Vous avez en tête peut-être l'accident du Qatargate, qui montre bien qu'on est loin du compte et notamment sur un volet qui a sans doute été pas suffisamment couvert ou protégé, qui est le lobby des pays tiers, le lobby au-delà de l'Union européenne. Bon, et puis on n'empêchera de toute façon jamais quelqu'un de contourner un registre. C'est pas un registre qui va régler tous les problèmes. Donc naturellement, si vous voulez avoir une mauvaise influence, vous allez pouvoir le pratiquer, je dirais, le dimanche au café et pas au Parlement pendant la semaine. Mais je pense que le registre de transparence met un petit peu d'ordre. Il met un peu d'ordre parce que si vous n'êtes pas dans le registre de transparence, vous prenez le risque de ne pas voir grand monde dans les institutions européennes. Et si vous ne respectez pas le registre, alors il faut préciser que le registre est couplé à un code de conduite. Et ça, c'est important. Le code de conduite, on n'a pas de définition stéréotypée de l'honnêteté ou de la malhonnêteté, mais c'est des choses assez simples, comme par exemple ne pas revendre des documents que vous avez obtenus d'une institution européenne. Ne pas vous présenter avec le logo de la Commission européenne si vous n'en faites pas partie. Et on pourrait dire, ça ne m'empêche pas de faire n'importe quoi. Mais si, parce que si vous êtes pris la main dans le sac, vous allez avoir quand même quelques soucis, vous serez identifié, les médias vont vous épingler, et en final, vous aurez beaucoup de mal à avoir votre rendez-vous suivant. Donc, je pense que les gens prennent assez au sérieux le registre de transparence, et puis on est bien d'accord qu'il ne faut pas réglementer non plus à outrance.
Juste un petit complément, je pense qu'également, il faut réglementer à l'intérieur des services des institutions européennes. Vous avez parlé, Olivier, du Qatar Gate. Donc c'est effectivement, à mon avis, aux institutions à tout mettre en œuvre dans leur réglementation interne au niveau des ressources humaines pour empêcher ce type de dérive. Donc il y a autre chose qui peut être choquant et qui peut être lié à du lobbying. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça au niveau européen, c'est le pantouflage. Moi, j'ai participé largement avec mon organisation donc au lancement d'une politique maritime pour l'Europe. Il y avait un directeur à la Direction générale de la pêche et ensuite il y a eu un commissaire maltais, Joe Borch, qui ont été très actifs dans cette mise en œuvre d'une nouvelle politique européenne. Et une fois en retraite, ils sont maintenant, ou ils étaient il y a un an ou deux quand j'avais regardé, membres d'un cabinet de consultants de haut vol à Bruxelles. Et c'est un peu choquant pour des personnes qui, on peut en être à peu près persuadé, disposent d'une retraite confortable, d'aller chercher à nouveau des projets et en gros de l'argent dans des missions privées en bénéficiant de leur carnet d'adresse. Donc là, il y a quelque chose à faire aussi peut-être, mais il y a eu le président Barroso aussi qui a été un peu en difficulté sur ce point. Donc, c'est également au niveau des institutions qu'il faut travailler, et pas uniquement au niveau du registre des lobbyistes.
Bon, je vais aller dans le même sens. Hein. Effectivement, il y a quelques cas qui sont choquants. L'exemple du passage chez Goldman Sachs de Barroso a fait couler de l'encre. La règle est qu'un commissaire doit rendre des comptes dans les 2 ans qui suivent sa sortie de fonction. Mais après 2 ans, il fait relativement ce qu'il veut. Bon, exemple choquant, je dirais, pour des fonctionnaires de base comme moi qui, eux, sont soumis à une fonction publique européenne assez rigoureuse, très rigoureuse. Et je vous mets au défi de trouver des exemples, je dirais, de corruption de fonctionnaires européens dans les 50 dernières années. Je ne parle pas des commissaires, hein, je ne parle pas du niveau le plus élevé. La fonction publique européenne est régie par des règles assez strictes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun dérapage, mais enfin, prendre de l'argent, c'est très difficile. Ne pas rendre des comptes, c'est mission impossible. Déclarer ses publications, c'est une obligation. Ne pas accepter les cadeaux au-delà de 50 euros, c'est une obligation aussi. Donc en réalité, les institutions européennes sont assez attentives. Et donc je ne vais pas rire de ce qui s'est passé avec le Qatar Gate parce que c'est vraiment sérieux, c'est un signal d'alerte. Ça s'est passé au Parlement avec des députés européens qui de temps en temps effectivement peuvent se croire un petit peu les rois du monde et parfois aussi des mauvais exemples de gens qui ont été des anciens députés européens et qui veulent revenir dans des lieux sur lesquels ils ont travaillé mais ils n'y travaillent plus. Et là je pense que le Parlement européen a bien pris conscience qu'il fallait serrer un petit peu la vis de ce côté-là, ce qui ne nous empêchera pas des dérapages. Mais enfin, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire, je pense qu'au niveau national, on a plutôt quelques mauvais exemples. J'en ai un ou deux en tête au niveau français actuellement, qui sortiront.
Moi, j'en ai un autre vraiment très, très à chaud. Ça, c'est Olivier Brunet qui accepte une bouteille d'eau offerte par votre radio. Est-ce que c'est autorisé?
J'ai envie de revenir sur un point, on a pu l'évoquer, donc il y a effectivement des structures plus importantes qui ont donc un impact aussi plus important. Je pense au lobbying là, des ONG ou même de l'associatif, on parlait tout à l'heure par exemple des associations d'étudiants, ou même bon, effectivement celui de la région. Est-ce que par exemple ces associations peuvent avoir le même rapport de force, le même impact par exemple qu'une grosse entreprise privée quand on a ces deux lobbies qui s'opposent, on imagine effectivement un rapport de force quand même différent, une stratégie construite avec pas les mêmes moyens.
Non, Patrick avait raison en distinguant tout à l'heure, je dirais, les gros et les petits. Moi, je vais prendre un autre exemple que j'ai pratiqué, qui est celui des partenaires sociaux. Il est évident que les organisations syndicales sont assez bien organisées à Bruxelles. Il y a une Confédération européenne des syndicats qui est solide. Mais en termes de poids et d'efficacité, naturellement, le côté patronal a plus de poids et plus de force et plus de puissance. Et donc, vous pouvez vous retrouver quelquefois en certaines difficultés à dire que, bon, effectivement, de quoi parle-t-on si vous reprenez l'exemple du glyphosate ou de l'environnement vis-à-vis de l'agriculture. Il est plus facile, certainement, d'avoir un gros lobby agricole à Bruxelles qu'une petite ONG environnementale. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est la recherche et l'innovation, où vous avez des poids lourds et des poids plumes qui vont défendre des intérêts contradictoires. Les lobbies industriels, là, sont relativement en puissance. Les universités sont assez bien constituées. Mais après, si vous êtes sur une niche, si vous voulez parler de ce qui vous tient à cœur et de ce que vous connaissez bien, de la lutte contre un cancer un peu spécifique, eh bien, vous aurez certainement plus de mal. Et puis naturellement, la culture en tant que telle n'a pas une grosse voix. Elle n'a pas une grosse voix parce qu'il n'y a pas non plus un gros budget. Donc les choses vont ensemble, mais ayant une petite voix, naturellement, les choses sont plus compliquées au niveau de Bruxellois.
Je confirme tout à fait, notamment les derniers points que tu as abordés sur la culture, etc. Moi, ce qui m'avait quand même frappé sur les dossiers du transport maritime, où il y a la Commission européenne organise beaucoup de réunions, de consultations, etc., avec les différents partenaires. Et dans ces réunions, les syndicats, la confédération des syndicats dans le domaine maritime, était tout à fait aussi présente, voire plus présente que l'EXA, l'Organisation des armateurs, ou l'ESPO, l'Organisation des ports. Donc sur ce dossier en particulier, je pense que le social l'a presque emporté sur l'entrepreneuriat. Mais c'est peut-être simplement une exception, je ne sais pas. Je voulais juste mentionner ça, ça m'a frappé, quoi.
Là, je pense que Patrick a raison à nouveau. C'est un peu aussi l'équilibre entre les niveaux. C'est-à-dire, si quelque chose vous tient à cœur, à quel niveau d'influence devez-vous vous situer? Et là, dans le cas des armateurs, c'est clair qu'on est plutôt dans un niveau international qu'un niveau européen, ou en tout cas, au niveau européen, il y a des intérêts à défendre, mais vous pouvez estimer que vous allez mettre le paquet au niveau international. Et au niveau syndical, il faut bien reconnaître que le niveau syndical est bien organisé au niveau européen, et qu'au niveau international, c'est plus compliqué, parce qu'on est dans une très, très grande diversité d'intérêts syndicaux.
On va arriver dans quelques minutes à la fin de cette émission. Je pense à l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute et qui se dit finalement peut-être est-ce que cette question du lobbying en Europe me concerne réellement ? Eh bien oui, on a pu le voir un peu ensemble finalement. Il a un impact directement finalement sur le quotidien, sur le citoyen européen, sur le citoyen mayennais. Comment est-ce qu'on peut justement lui expliquer, lui dire, voilà, aujourd'hui, tout ce qui se décide à Bruxelles, via les lobbies, la voix des lobbies est importante pour les décisions, locales, si on parle, par exemple, du département de la Mayenne.
Moi, je vais faire peut-être un petit appel à l'intérêt que nos auditeurs et auditrices peuvent manifester vis-à-vis des Maisons de l'Europe, puisque les Maisons de l'Europe sont bien constituées dans les pays de la Loire. Elles sont relativement en danger, hein, comme beaucoup d'autres structures actuellement dans le domaine de la culture, pour cause de risques de diminution brutale de subventions, venant notamment du Conseil régional. Et je fais partie de ceux étant aussi au bureau de la Maison de l'Europe à Nantes qui croient à la valeur ajoutée de ces structures qui sont le relais et l'intermédiaire entre l'Europe qui peut paraître un petit peu lointaine et le terrain. Et donc grâce aussi à des radios dynamiques, eh bien, on essaye de faire porter la voix du plus petit. Savoir aussi qu'en Mayenne, à ma connaissance, vous avez un certain nombre de gens qui ont des positions assez importantes sur Bruxelles. Il y en a une qui me vient en tête qui est parlementaire européenne et présidente de groupe. Et donc, il y en a d'autres et d'autres de différentes tendances dans la région. Mais donc, ne jamais oublier les relais qui peuvent exister et qui sont proches de chez nous.
Oui, donc c'est un lobbying mayennais organisé d'urgence sur ce thème, mais l'émission va sans doute y aider. Non, sur l'influence des lobbies sur la vie quotidienne, très évidemment le glyphosate et la santé, donc les lobbies qui ont pu influencer les institutions européennes pour réautoriser le glyphosate, donc ont des conséquences directes sur la santé, y compris des Mayennais, donc tout ce qui est normes environnementales et tous les débats, enfin les influences des différents lobbies pour permettre et envisager que les normes environnementales deviennent plus souples à Bruxelles. Donc ça, c'est une influence directe sur la santé des gens. Voilà le type de lobby. Vous savez que la Mayenne bénéficie, comme la plupart des départements et des régions, voire tous, d'argent de la politique régionale, du fonds régional. Donc si les Mayennais, il est possible de faire du lobby pour influencer le contenu des programmes opérationnels qui sont développés dans telle ou telle région. Et que là, il y a du lobbying possible à différents niveaux. Donc c'est juste deux exemples, un sur la politique régionale, l'autre sur la santé. Non, les lobbies influencent évidemment la vie quotidienne des gens au niveau européen.
Et donc, on peut, pour conclure cette émission, on peut vraiment parler finalement du lobbying comme d'un outil démocratique.
Moi j'aurais tendance à dire qu'il est démocratique. En tout cas, il est encadré, il est raisonnablement encadré, il est reconnu. Et franchement, si vous supprimez les lobbyings, alors vous n'allez avoir plus que des institutions, donc ce sera pire. Bon, à nous, effectivement, de faire fonctionner la machine le mieux possible, de nous y impliquer, d'être des acteurs, et de regarder ce qui se passe chez nos voisins, parce que moi j'ai travaillé 2 ans en Espagne, il n'y a pas la même excitation sur le lobbying, hein. Les gens savent qu'il y a différents niveaux d'échelons de décision, et donc il faut rester calme avec la notion de lobbying, de parler de groupes d'intérêt, de les diversifier, donc j'espère qu'on a contribué modestement aussi à un petit peu à aiguiser la curiosité des gens. Donc une CRPM dans un monde très bien construit de la politique régionale, c'est assez différent d'une brutalité accrue dans des affrontements qui vont demeurer entre un monde agricole et un monde environnemental. Mais après, vous pouvez trouver une zone plus raisonnable dans la recherche et l'innovation. Il y a des intérêts variés, mais chacun reconnaît les mérites de l'autre. Et donc faisons preuve de curiosité, faisons preuve aussi un petit peu de modestie par rapport à ce qui peut exister, et évitons les débats trop caricaturaux comme parfois on aime bien les faire en France.
Tout à fait d'accord avec ces conclusions. Donc, je pense que ça, effectivement, ça complète utilement le jeu normal des institutions. Et il reste à continuer à l'encadrer, peut-être pas à l'encadrer plus fortement, mais continuer à l'encadrer, à vérifier, y compris au sein des institutions européennes, que le lobbying ne soit pas utilisé trop de façon non normale, quoi. Enfin, donc voilà.
Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette émission Instant Europe sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Alors, pour l'auditeur qui viendrait tout juste de nous rejoindre, le podcast est disponible sur notre site internet, sur l'autreradio.fr. Pour revenir au début de cette émission, on a pu éclaircir justement ensemble aujourd'hui ce qu'est le lobby en Europe, éventuellement les différents domaines dans lesquels il est particulièrement important. Et puis, on a évoqué également tout ce qui pouvait être la question des dérives, des rapports de force entre les différents lobbies via vos deux expériences, Olivier Brunet et Patrick Envoy. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Merci à vous.